Bonjour chère auditrice, chers auditeurs, nous voici avec notre émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Comme vous le savez peut-être bien, chères auditrices et auditeurs, autant que militantes et militants, nous sommes très conscients de la limite de notre pouvoir de porter des changements souhaitables à cette société. Cette société, je vous rappelle toujours, qui est en fin de compte la nôtre, le Québec et notre société. Et si nous sommes en train de mettre autant de temps et d'énergie à titre de bénévole, signe de loyauté et de sincérité, c'est aussi parce que nous désirons ouvrir une voie d'espoir aux nouvelles générations. La continuité du combat pour le respect, la justice, l'égalité, j'en passe, des principes fondateurs de cette société. Bref, l'humiliation de l'homme est inacceptable. Personne d'entre nous n'acceptera d'être humilié par les injustices sociales et encore de ne pas pouvoir se défendre face à un système double fois injuste par moment. Toute la question est là. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans une société exclus d'abus de pouvoir et d'injustice? Pourquoi nous sommes estimés à la valeur de notre portefeuille? Pourquoi la majorité de nos citoyens, et plus particulièrement les jeunes, ne font plus confiance à notre système politique? Et combien ces interrogations nous dérangent, nous déstabilisent et finalement nous poussent dans l'univers de l'inquiétude. Notre société civile est quasiment exclue des enjeux politiques. Les grandes décisions qui nous concernent, nous les citoyens, sont malheureusement et dans la plupart du temps prises à huis clos, sans notre consentement. Alors la fameuse question qui nous revient toujours à l'esprit, restons-nous les bras croisés devant un avenir incertain, flou par la plupart d'entre nous? Donc nous sommes aussi, et heureusement de temps en temps, appelés aux urnes, notre ultime devoir de citoyen, de choisir celui et celle qui sera notre porte-parole, qui portera notre inquiétude à cœur, notre voix sur les tribunes politiques. Voilà pourquoi ça devient une issue de secours, une possibilité, espoir de se retrouver un jour dans la société de nos rêves. Écoutez, au micro avec vous ce matin, Adj Zitouni, un militant d'Image, un mouvement en défense des droits de la personne face aux différents abus de pouvoir dans notre société. J'ai à côté de moi également mon collègue Roland Cazès qui va m'accompagner dans l'animation de cette émission. Aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, je suis un peu plus chanceux que d'habitude. Imaginez-vous, j'ai en face de moi une charmante dame agréable à écouter, le sourire constamment présent et au-delà de tout, elle est d'une grande simplicité. D'ailleurs, elle a accepté, malgré un agenda chargé, de répondre à notre invitation en dernière minute et venir partager avec nous ce moment de l'émission. Il s'agit bel et bien de Mme Maria Mourani, candidate du Bloc à l'élection fédérale dans la circonscription d'Intessic. Restez à l'écoute, chères auditrices et chers auditeurs. Après notre thème musical, nous entretenons avec Mme Maria Mourani de ses préoccupations et de certains enjeux politiques qui nous occupent tous.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune. La main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un violeur et des violés.
Rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Bonjour, Madame Maria Morani, candidate du Bloc québécois d'Antic. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et bien sûr, si vous me permettez bien, j'aimerais redresser rapidement un petit tableau, question de vous présenter aux auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas peut-être très bien. Donc, vous êtes né en Côte d'Ivoire, de parents d'origine libanaise. Après Abidjan, vous avez passé une partie de votre adolescence en France. Arrivé au Québec depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous suivez des études en criminologie, vous obtenez un baccalauréat, puis vous continuez une maîtrise en sociologie. Est-ce exact?
Tout à fait.
Donc, vous travaillez aussi en parallèle, si je ne me trompe pas, comme agente de libération conditionnelle, puis éducatrice dans un centre de jeunesse. Réflexion et résultat de tout ça, cette expérience académique, vous avez publié en 2006 La face cachée des gains de rue, Paris aux éditions de l'Homme, puis en 2009, un second livre qui traite du même sujet, mais un peu plus global. Avant d'aller un peu plus loin, Madame Morani, dans votre second livre, vous avez élargi un peu le champ de votre étude, puisque vous avez abordé les gains de rue dans le reste du Canada, principalement l'Ouest canadien et un peu partout en Amérique. J'aimerais bien, si vous pouvez nous dire, avez-vous vécu personnellement dans ces territoires pour s'approprier le droit réel convaincant de l'écriture?
Merci de votre question. Bonjour tout d'abord à toutes les personnes qui nous entendent aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
Madame,
merci de votre invitation.
Le sourire est toujours là.
Merci beaucoup. Écoutez, je vous dirais, je suis une personne de terrain.
Voilà.
Vous allez avoir des chercheurs qui vont être des personnes qui vont être plus théoriques.
Justement, c'était le but de ma question.
Moi, je suis vraiment une personne de terrain.
Ouais.
Je rencontre autant des membres de gangs de rue que je vais rencontrer des travailleurs de rue parce que ma vision est globale. Mon premier livre, par exemple, est un livre qui est basé à 17% sur des entrevues avec des jeunes membres de gangs de rue.
Ici au Québec.
À Montréal.
À Montréal.
Le premier, c'était à Montréal.
Excellent.
Vous voyez?
Ouais, ouais.
Et le reste, c'était, ça pouvait être des policiers ou des intervenants, etc.
Ouais.
Dans mon deuxième livre, je vous dirais 70 à 75% étaient des entrevues avec des membres de gangs de rue.
Mais on parle toujours d'ici à Montréal.
Non, là c'était plus varié. Là,
c'est ça
a été autant à Montréal qu'au Salvador.
Ah, vous avez déplacé pour
oui,
ça.
Oui, je suis allée au Salvador et je peux vous dire que ça a été extrêmement intéressant pour moi.
Voilà.
Et je suis allée au Salvador sans l'armée parce que vous savez là-bas, la situation est vraiment
chaotique.
Pas seulement chaotique, mais l'État est en guerre contre les gangs de rue.
Oui.
Et il n'y a que deux gangs de rue qui dominent, les Mara Salvatrucha et la 18. Donc ces deux gangs-là sont un état dans l'état. carrément.
D'accord.
Alors les gens qui vont faire ce genre d'études sont extrêmement rares au Salvador, que ce soit au Honduras, Guatemala, parce que c'est une épidémie qui s'est un petit peu propagée en Amérique centrale. Mais quand ils y vont, ben ils y vont avec une escorte policière, paramilitaire carrément, c'est des militaires
à ce point-là,
vous comprenez, c'est extrêmement dangereux.
Ouais.
Mais moi je sais que ce genre de choses n'apporte rien dans la recherche parce que les gens vont pas te parler. Alors moi ce que j'ai toujours développé dans mes recherches, c'est le lien de confiance avec des acteurs clés, si vous voulez, qui me permettent d'avoir accès à ces gens-là. J'ai aussi à Montréal développé des liens de confiance avec certains membres de gangs, avec des acteurs clés qui sont des ponts avec ces membres de gangs-là. Donc, moi, je suis quelqu'un de très terrain.
Mais vous avez dit justement, vous avez bien précisé que vous êtes une personne de terrain et tout. Mais ce qui nous m'amène, moi, me ramène vraiment à cette question-là, c'est pourquoi vous êtes intéressé à un tel sujet et pourquoi tout un cheval de bataille pour les gangs de rue, sachant, à mon avis, qu'ils ne sont pas aussi nombreux ici à Montréal.
Mais vous avez pas tort quand vous dites qu'ils sont pas nombreux, mais ils n'ont pas besoin d'être nombreux pour être nuisibles.
Tout à fait.
Et je vous dirais, moi, ce qui m'a le plus touché dans ce phénomène-là, que j'ai découvert, en fait, parce qu'au début...
Attention, Madame Morani, vous avez quand même étudié la criminologie et tout, c'est-à-dire l'intérêt, il vient de loin. Hein.
Oui, tout à fait.
Demande,
tout à fait.
Vous accentez
beaucoup sur ce sujet. Mais au tout début, j'étais intéressée par le crime organisé.
Voilà. Ah, ça, c'est encore plus...
Vous voyez, donc j'étais plutôt intéressée par le crime organisé. Dans le champ de spécialisation, au tout début, quand j'ai commencé en criminologie, j'avais comme un choix à faire à un moment donné. Est-ce que je deviens criminologue ou criminaliste?
Voilà.
Et j'ai découvert que j'avais une passion pour l'humain. Pour l'être humain, pour ce qu'il pense. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain peut en arriver à poser tel ou tel comportement? C'était quelque chose qui me passionnait. Donc, j'ai choisi la vocation criminologue. Et moi, je suis une criminologue progressiste. Donc, je suis quelqu'un qui a une vision axée sur la prévention, réhabilitation.
Oui.
Et que la répression est la dernière frontière auquel on n'a plus le choix d'agir. On a aussi la répression à faire. Mais ça, c'est une autre dimension. Quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser aux gangs de rue et vraiment à vouloir briser les préjugés qu'il y a autour de ce phénomène-là? Parce que j'ai constaté que ce phénomène, pendant longtemps, a été associé aux communautés culturelles, aux immigrants.
Exactement.
C'était les immigrants, ces jeunes un peu mal adaptés à une société d'accueil qui arrivent ici, soit aux États-Unis, soit au Canada, et qui, sont porteurs d'une culture violente. Et ce que je dis là, c'est des chercheurs qui l'ont dit. Et moi, ça me révoltait. Ça me révoltait d'entendre ça parce que moi-même, je suis un enfant qui a grandi dans ce qu'on peut appeler le ghetto. J'ai moi-même été quelqu'un qui a été dans ce milieu-là. J'étais dans des...
Vous faisiez référence ici au Québec ou...
Ici au Québec.
Au Québec.
Et mon frère, qui est arrivé plus jeune que moi encore ici à l'âge de 8-9 ans, a dû apprendre à vivre dans cette jungle où il y a des gangs de rue, où il y avait des jeunes qui se mettaient en gang, puis se mettaient en gang pour toutes sortes de raisons. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène-là parce que je constatais que c'était un phénomène qui touchait les enfants. Et ça me...
Ah, c'est ça qui est plus...
C'est ça qui m'a interpellée.
Qui dérange un petit peu,
Qui me dérangeait énormément quand je voyais des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans pris au piège par la pauvreté, par le décrochage scolaire, par la violence urbaine, et qui se retrouvaient à devoir choisir leur camp.
Mais justement, Madame Amorani, vous comprenez aussi que ces gangs de rue sont le fruit de notre société. Hein.
Tout à fait.
Autrement dit, ces gangs de rue n'ont pas été destinés de leur naissance à être rangés dans cette catégorie. Selon vous, Madame Amorani, si certaines conditions de vie ou de chance étaient rassemblées pour ces jeunes-là, pensez-vous qu'ils vont prendre pareil le chemin de la criminalité?
Moi, je vous dirais, si les conditions sociales sont présentes, que ce soit au niveau de la lutte à la pauvreté, le fait de permettre aux gens de pouvoir travailler mais d'élever leurs enfants, parce que quand tu travailles, tu as 2-3 jobs, comment tu peux, tu sais, t'es monoparental, tu as 2-3 jobs, comment tu peux élever ton enfant? Donc, c'est sûr que les conditions sociales sont fondamentales pour aider les gens à ne pas aller dans la criminalité. Et ça, on parle de prévention.
Voilà.
Mais il y a aussi une autre dimension. Il y a une dimension que moi j'ai constatée, c'est la cristallisation de la criminalité chez certains membres de gang. C'est une job pour eux, c'est un emploi pour eux. Comme vous, vous vous levez le matin pour aller au travail, je sais pas moi, vous êtes animateur de radio, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous êtes épicier. Ben eux, ils se lèvent le soir plutôt et ils sont vendeurs de drogue, ils sont proxénètes. C'est un emploi pour eux.
Ouais.
Et il faut comprendre et il faut comprendre que ce phénomène est comme tous les autres phénomènes criminels. Dans une société, le crime existera toujours.
Je suis d'accord.
Mais par contre, nous pouvons l'amoindrir.
Voilà.
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire autre chose dans leur vie que d'être membre de gang de rue.
Oui.
Et que pour eux, c'est le gang de rue qui lui donne l'opportunité d'être quelqu'un, d'être respecté, d'avoir une famille. Et ça, c'est des propos que les membres de gang me disent. Moi, je suis rentré dans le gang parce que je cherchais une famille. Puis eux, c'était ma famille. Ils ne sont pas rentrés dans le gang forcément pour tuer du monde.
Je suis d'accord, mais ça, je suis complètement d'accord, cette vision-là. Mais ma question, moi, elle est encore plus précise. Est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes des victimes ?
Oui.
Oui, il y en a, oui, tout à fait. Il y en a qui sont totalement des victimes.
Oui.
Totalement. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est ça, il faut faire très attention.
C'est ce que vous voulez dire, c'est un choix.
C'est un choix
personnel.
Il y en a qui ont choisi.
C'est-à-dire qu'ils avaient
ça.
La possibilité d'aller à l'école
oui,
et tout. Ils
tout
ont,
à
ils
fait.
Pas voulu
ils ont
le faire.
Une très bonne famille, qui ont le père, la mère. C'est pas des familles disloquées. Ils ont reçu de l'amour. Ils sont de classe moyenne. Ils n'ont pas vécu dans la pauvreté. C'est pour ça que j'ai toujours dit
ça,
de faire
ça, vraiment,
attention que le phénomène de gang de rue et même le phénomène même lié au crime organisé. Oui, il y a un bassin. Qui est celui de la pauvreté, qui est celui de la misère sociale, de la violence et tout.
Oui.
Mais il y a une autre catégorie de membres de gang qui, eux, ont fait ce choix parce que, pour eux, ils veulent faire de l'argent rapidement. Puis c'est leur façon de faire de l'argent rapidement. Et ils font partie de classe moyenne. Le père, la mère est là. Même les parents me disent, mais je ne comprends pas. On lui a tout donné. Mais il était attiré par ce style de vie un peu gangster, où il y a une valorisation de la violence, une dévalorisation des femmes. Il y a des gars qui vont aller dans les gangs parce que ça leur permet d'avoir des filles. Ils ont tout un rituel, par exemple, où il y a des partous, où il y a des gros partés. Les gangs de rue, c'est pas juste vendre la drogue, tuer du monde, puis envoyer les filles se faire prostituer. Il y a aussi toute une espèce de vie sociale qu'il y a autour de ça, qu'il y a des jeunes qui sont attirés par ça, puis il y a même des jeunes filles qui vont être attirées par ce style de vie-là. Donc c'est une sous-culture avec ses propres valeurs, mais aussi sa propre façon de vivre.
Ouais,
et dans un choix de vie, il y a des gens qui vont avoir des choix de vie et ils vont choisir ce choix de vie-là.
Oui.
Parce que moi, mais c'est pas une grosse majorité.
C'est ça, parce que j'ai pas la même vision du tout. Moi, ceux que j'ai rencontrés et tout, c'est malheureusement une exclusion sociale.
Tout à fait.
C'est nouveau pour moi d'entendre de dire que c'est vraiment des gens qui viennent de familles aisées et tout et qui vont eux-mêmes choisir ce chemin-là de criminalité.
Puis d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti d'un jeune membre de gang qui lui-même l'a écrit. Je pense, si ma mémoire est bonne, je m'appelle Ziad, quelque chose comme ça.
Oui.
Je m'appelle Ziad.
Ici à Montréal.
Oui, il a écrit ça et puis il raconte lui-même. Il vient d'un milieu aisé, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème à la maison.
Oui.
Il a choisi ça, il le dit très bien. Et je trouvais ça intéressant que ça ressorte. Parce que moi, c'est ce que je vois dans mon quotidien avec les membres de gang. Et par exemple, au Salvador, c'est tout à fait le contraire. Je vous dirais, c'est 100% des jeunes qui n'ont pas le choix. Ils sont dans la misère noire. Et en même temps, leur père, leur mère est un membre de gang. Ils naissent dans des gangs de rue. Ils sont nés.
C'est une famille, quoi. Là.
C'est une famille.
Un héritage, quoi.
Tout à fait. Quand il grandit, quand il a 2-3 ans, on lui donne ça à la petite cuillère. Il porte les couleurs, il porte les tatous. Quand il arrive à l'âge de maturité, 12-13 ans, pour eux, déjà, ils commencent à avoir les tatouages.
Mais vous êtes toujours d'accord avec moi, si je ne me trompe pas, Madame Mamrani, comme quoi il y a des victimes dans ce...
Tout à fait,
Vous êtes aussi membre du comité permanent de la Chambre des communes sur la sécurité publique depuis 2008.
Depuis 2010.
Ah, excusez-moi,
c'est correct.
Depuis 2010.
C'est correct.
Et vous recommandez...
Oh oui, pardon, je suis membre du comité. Vous avez raison, je suis membre du comité...
Depuis 2008.
Depuis 2008, mais je suis porte-parole à la sécurité 2010. Publique depuis 2008.
Excellent.
Excusez-moi.
Et vous recommandez le mélange de la prévention et de la répression.
Et de la réadaptation aussi.
Voilà. Et de quelle prévention parliez-vous justement dans une société où des familles, qu'importe leur nombre, hein, vivent dans la misère? Nous avons des familles ici à Montréal qui ne mangent pas 2 repas par jour et leurs enfants grandissent dans la misère sans aucun espoir. Et vous savez encore mieux que moi que ces dernières années, le gouvernement ne se préoccupe guère de ce qui se passe à l'intérieur du Canada. Il est plutôt branché à l'extérieur. Une fois élu, comment vous allez présenter les choses afin de détourner le regard de cette urgence, madame?
Mm-hmm. Ouais. C'est une très bonne question. Je vous dirais, on pourrait aborder différents volets avec cette question. La misère, la pauvreté, la lutte à la pauvreté passe par plusieurs points, notamment par le logement. C'est des situations que moi j'ai vues personnellement dans mon comté, mais qui aussi à travers tout le Québec et même tout le Canada, oui. Le logement abordable.
Tout à fait, parce que... Oui,
et au niveau fédéral, je vais vous donner un exemple. Avec le dernier gouvernement, il y a eu des coupures au niveau du logement abordable familial. Donc, oui. Il y a eu un investissement pour le logement abordable pour aînés, oui. Pour personnes handicapées, mais pour les familles.
Faibles de revenus.
Oui, tout à fait. Or, on constate de plus en plus qu'on, en tout cas nous, dans l'ANSI, qu'on a des familles nombreuses. Oui. Ce n'est plus 2 enfants, c'est vraiment 3, 4, 5, oui, parfois 6 même que j'ai pu voir.
Ils ont la difficulté à trouver aussi des grands logements.
Tout à fait. Oui. Donc, il faut commencer à construire des logements familiaux pour des familles nombreuses.
Oui, oui.
Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'au Bloc québécois, il faudrait investir 2,2 milliards par année à même les surplus de la société d'hypothèques et de logements,
oui.
Pour plus de logements abordables.
Oui.
Et ça va dans le sens du Frappru qui dit qu'il faut faire cet investissement-là. Vous voyez, donc le logement abordable est une chose. Moi, dans mon comté, au niveau de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, qui est fondamentale.
Oui, pour les...
Pour manger, ouais, tout pour simplement, pour avoir à manger pour les banques de denrées alimentaires.
Scolaires ou pour les...
Pour vraiment nourrir les familles. Nourrir les familles, mais aussi les aînés, oui. Et les personnes itinérantes, parce, oui. Qu'on en a aussi dans le comté.
Tout à fait.
Donc, moi, je travaille beaucoup avec le SNAC. Qui, à tous les ans, on ramasse de la nourriture pour le snack.
Oui.
Ça, quant à moi, c'est des petites actions locales,
oui.
Mais que l'on peut faire à l'échelle vraiment
nationale,
vous comprenez?
Ça veut dire l'idée, elle va naître là, et puis elle peut...
Et on le voit, vous voyez, par le centre aide, vous le voyez, la maison,
ouais,
du père, etc.
Ouais.
Mais nous, dans Annecy, on le fait très localement, on le fait avec le snack. D'autres choses
et l'expérience,
aussi,
elle réussit, elle donne des...
Bien sûr, à tous les ans, on ramasse autour de 200-300 boîtes de nourriture. Et quand je parle des boîtes, je parle des grosses boîtes.
Vous avez des
gros cartons.
Donc il y a une satisfaction du côté citoyen, j'imagine.
Tout à fait, parce que les gens se nourrissent, hein. Les gens viennent, ouais, ouais. Et puis il y a une cuisine communautaire au, ouais. snack, puis le jour de Noël, ils ramassent des paniers.
C'est tout à fait vrai, Madame Morani, parce que, imaginez-vous, une famille de faible revenu qui paye 80% de son salaire pour un loyer, et qu'est-ce qui lui reste pour vivre aussi,
C'est ça. Et pour manger, parce que, par exemple, moi aussi, ce que je soutiens dans mon comté, c'est les marchés saisonniers.
Oui.
Alors, les marchés saisonniers permettent d'avoir des produits locaux,
oui.
Mais aussi de les payer moins cher.
Oui.
Alors, aussi, un kiosque alimentaire qui va être implanté cet été à côté de la station Henri Bourassa.
Oui.
On a un espace là-bas où il y a les autobus.
Réservé.
Pour, oui, tout à fait. Puis on
et c'est
va
des gens qui vont passer chercher.
Oui,
leur...
puis qui vont pouvoir aller. Et puis on veut le faire à l'année.
Oui.
C'est un projet qui est fait avec la CEDEC. Donc, c'est vraiment un kiosque qui va permettre de vendre des produits du Québec, mais pas cher. C'est toujours le principe de pas cher, pas cher.
Quand vous disiez pas cher,
abordable.
Subventionné, oui, je sais, mais est-ce que c'est
mais moi, par exemple, oui. je subventionne via les emplois été.
Oui.
Donc, on fournit des jeunes qui vont travailler là-dedans.
Oui.
Et ces jeunes-là sont, bien sûr, subventionnés par le programme emploi été que chaque député a, oui. dans son comté. Moi, c'est à peu près 310 000 $ que je distribue dans mon comté pour des emplois pour les jeunes, justement.
Les jeunes. Merci, Mme Morani. On va prendre une pause musicale. On va revenir pour notre entretien.
Je m'y suis fait mal. Elle s'appelle Cocotte, vieille bagnole, bazou, taco, minoune. Votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval. Participez à la lutte contre les maladies rénales en donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclée. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez rhinquebec.ca.
On vous invite à nous écouter en direct de la bibliothèque Mont-Royal, mercredi le 4 mai, de 9h à 11h. Nous sommes les élèves de l'école Saint-Enfant-Jésus. Nous vous parlerons des différences, comme l'homosexualité, le racisme et d'autres sujets. Alors, mercredi de 9h à 11h, à Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Ici Louise Latraverse, porte-parole de la 60e semaine de la santé mentale, un moment que j'ai envie de passer avec vous dans le but de faire plus de place à la confiance dans nos vies. Confiance, un mot magique qui semble appartenir à quelqu'un d'autre, est aussi accessible à toi, à vous, à nous. Du 2 au 8 mai, place à la confiance qui donne des ailes.
Le réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale vous invite à visiter êtrebiendanssatête.com. Des outils vous y attendent.
Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, nous reprenons notre entrevue avec Madame Maria Morani. Madame Maria Morani, qu'est-ce que vous présentez pour ANTSIC, c'est-à-dire votre programme? Avez-vous un programme?
Oui, tout à fait. Merci. Mais écoutez, moi, je vous dirais, ça fait 5 ans que je suis députée. Il y a eu plusieurs dossiers qu'on a portés. Certains ont été résolus, d'autres sont en cours encore. Donc, c'est un peu la continuité. Donc, d'une part...
Comme vous disiez, c'est-à-dire ils sont nés, mais ils ne sont pas finalisés.
Parce qu'il y a eu des élections, aussi des gros dossiers, par exemple, comme le prolongement de la A19.
L'autoroute 19,
tout à fait, qui est fondamental pour nous, parce que vous savez, Papineau traverse mon comté d'un bout à l'autre. Oui. Et ANTSIC, malheureusement, est considéré, et là je parle de l'arrondissement ANTSIC-Cartierville, et il y a eu un représentant de la sécurité, de la santé publique, pardon, qui est venu nous voir concernant la A19. Il nous avait montré qu'après le centre-ville, ANTSIC, l'arrondissement était l'arrondissement où il y avait le plus d'accidents de voitures qui impliquaient voitures et personnes.
Mais piégé, vous voulez dire?
En fait, c'est parce que les gens, quand ils viennent dans ANTSIC via Papineau ou Saint-Hubert ou Christophe Colomb, ils essayent de fuir les embouteillages.
Donc,
ils traversent les petites ruelles un peu partout. Et la conséquence de ça, c'est que les gens pensent qu'ils sont sur des autoroutes alors qu'ils sont dans des zones résidentielles. Alors, on a malheureusement le triste record d'accidents de voitures qui implique des piétons. Et ça représente plus de 400 enfants. Et ça, c'est fondamental.
400 enfants.
Sur 9 ans, 400 enfants, plus de 400. Le chiffre étant autour de 450, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près un enfant par semaine.
C'est grave.
C'est très grave, très très grave. Alors pour nous, quand on a su cette affaire-là de la A19, pour nous c'est encore plus de voitures dans le comté, c'est extrêmement grave. Oui. Alors on a formé un comité de différents paliers, autant fédéral, provincial, scolaire et municipal.
Et le projet des murs sur pied depuis combien?
C'est récent. C'est récent. On a commencé à s'impliquer en 2010 là-dedans, parce que là on a commencé à entendre qu'ils veulent prolonger ça et que nous n'étions pas impliqués dans le processus et nous n'étions même pas impliqués dans l'étude d'impact sur la santé, l'environnement et la sécurité.
La sécurité, tout à fait.
Voyez, donc là, on a monté ce comité-là et puis on va se battre jusqu'au bout pour que, premièrement, ANTSIC soit considéré dans l'étude d'impact, mais aussi que le transport en commun soit mis de l'avant là-dedans. Parce que si on est poigné avec cette affaire-là, il va falloir qu'il y ait des lignes réservées aux autobus.
Tout à fait, oui.
Pour qu'il y ait le moins de voitures possibles qui traverse ANTSIC, parce qu'on en a beaucoup trop.
Ça, c'est un programme.
Ça, c'est un enjeu,
un projet, enjeu fondamental.
Et il touche tout ANTSIC, parce que c'est pas vrai que les gens qui vont être plus, disons, vers le centre ou l'ouest vont échapper, parce que les gens qui vont descendre Papineau, veut pas, ou qui vont descendre Christophe Colomb, Saint-Hubert, ou même qui vont descendre Saint-Laurent, ils vont utiliser les ruelles pour échapper au trafic. Et ça, c'est nos enfants qui jouent, dans les ruelles. Il y a des enclaves dans ANTSIC où les enfants, durant l'été, sont dehors et ils jouent dans les ruelles.
Mais c'est une enveloppe de combien vous mettez sur la table? On parle d'un budget de...
Non, il n'y a pas de budget. Il n'y a absolument aucun budget de planifier là-dedans. C'est vraiment, on est à l'étape où, dans l'étude d'impact, ANTSIC doit être considéré.
Vous êtes à l'étape première.
Alors. À l'étape première. Oui. L'autre enjeu important pour le comté, mais qui concerne vraiment le domaine Saint-Sulpice. Donc, dans le domaine Saint-Sulpice, il y a eu un bureau de poste. Ça peut paraître anodin, mais c'est fondamental. Ouais. Il y a eu un bureau de poste de proximité qui a fermé. Or, dans ce coin d'ANTSIC, si vous voulez, c'est une enclave qui est à 60%, c'est plus de 60%, c'est des aînés. Et c'est des gens qui sont à mobilité réduite. Alors écoutez, ces gens-là, aller jusqu'à la rue Fleury.
Se déplacer
pour aller poster des affaires, c'est un trouble, c'est même pas un trouble, c'est inimaginable.
C'est leur témoignage.
Oui.
Vous avez rencontré.
Écoutez, j'ai fait deux consultations, il y avait plus de 300 à 400 personnes qui étaient là. J'en ai fait deux. durant à peu près 2 ans, là, 2 grandes consultations. Oui. Donc, c'est un dossier qu'on poursuit parce que Post Canada a une attitude vraiment très fermée oui. par rapport à ça. Et quand je parle de Post Canada, je parle des gestionnaires. Je ne parle pas du syndicat, par exemple. Oui. J'ai reçu l'appui du syndicat des postiers pour qu'on ouvre un bureau de poste dans un cycle. Donc, c'est un projet.
C'est le bureau chef qui pose ce problème?
C'est la tête, si la vous tête, voulez. Voilà. C'est les gestionnaires en haut qui ont pas beaucoup d'ouverture parce qu'ils veulent privatiser. Ils vont vers la privatisation. Et ça, c'est inacceptable. Oui. Parce qu'une entreprise comme Post Canada, ce n'est pas une entreprise privée qui fait de l'argent. Ils ont fait des surplus de plusieurs milliards de dollars. Oui. Qu'est-ce que ça leur coûte d'ouvrir un tout petit comptoir postal qui va permettre à des femmes et des messieurs de 90 ans parfois, avec leur marchette, de venir déposer leur colis? Il y a des gens qui ne peuvent même plus aller lire parce qu'ils sont solitaires, ils sont seuls dans leur maison. Oui. Puis leur seul accès à la lecture, c'était d'avoir la livraison des livres chez eux à la maison. Puis les gens me disent, je ne lis plus, je n'ai plus la possibilité de lire, parce que le facteur, quand il vient, puis que je suis pas là, ben, il me demande d'aller sur Fleury. Je peux pas y aller.
Je préfère ne pas aller, c'est ça.
J'irai pas, je peux pas y aller. Vous voyez, ça c'est un enjeu fondamental. Je poursuis aussi dans tout ce qui concerne, bien sûr, comme vous me connaissez, la sécurité, que ce soit la prostitution, les gangs de rue, que ce soit aussi l'itinérance. L'itinérance, on a beaucoup travaillé là-dessus, parce que moi, mon point fondamental, je ne veux pas que l'itinérance soit criminalisée.
Mais c'est un dossier qui n'est pas réglé non plus, là.
Non, toujours, il y a toujours une... Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté sur pied un comité avec différents partenaires. Et moi, j'implique toujours notre poste de quartier, parce que je pense que... plus on impliquera les forces de l'ordre, plus ils vont avoir à développer, disons, une attitude plutôt préventive, plutôt conviviale. Et on est chanceux dans un cycle. Parce que notre poste de quartier 27, qui est la jeunesse, qui est sur Papineau-Fleury, au coin de Papineau-Fleury, la commandante de quartier, c'est une
Madame Lalonde,
une femme progressiste.
Oui, j'ai déjà parlé.
Vraiment, là... du travail de terrain qu'il fait avec nous autres.
Très rigolo,
oui, vraiment. Et puis, voyez, on a fabriqué un petit dépliant que les policiers ont avec eux. Et quand ils rencontrent une personne itinérante, au lieu de donner des contraventions qui ne servent à rien,
rien du tout,
c'est de dire au monde, bon, as-tu mangé aujourd'hui? Voilà où tu peux aller manger. Voici où tu peux dormir. Puis s'ils sont un peu violents, c'est là qu'on doit intervenir parce qu'il y a eu de la violence de certaines personnes. Puis là, bon, ça ne veut pas forcément dire qu'ils se font arrêter. Mais au moins on peut leur dire circulez, faites pas ça. Si vous devenez agressif envers le monde, bon là tu vas te faire arrêter, fais attention.
Madame Morani, vous savez, ça c'est un petit peu de la théorie. Est-ce que vous, femme de terrain et tout, avez-vous eu la chance de rencontrer des itinérants?
Tout à fait. Moi j'en ai rencontré. Puis quand je marche sur la rue Fleury, je parle avec eux. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'étais encore sur la rue Fleury. Je suis tombée aussi encore sur une personne itinérante. Oui. Puis là je vérifiais avec lui s'il connaissait les services et tout. Puis non, je le fais souvent, moi. Et pareil pour au niveau de la prostitution, que ce soit les organismes comme Rap Jeunesse qui travaillent au niveau du travail de rue et tout, on a formé un comité aussi pour adresser cette situation-là dans un cycle qui est encore, je vous dirais, le syndrome d'une pauvreté, de problèmes de toxicomanie. Donc on a impliqué aussi le Centre Dollar Cormier dans ce projet-là. Donc on a comme ça des petits projets qui sont toujours très locales, mais qui aident à une qualité de vie dans le comté et surtout qui aident ces personnes-là. Parce que notre but, c'est d'aider ces personnes-là à sortir de la misère où ils sont et non pas de les criminaliser.
Tout à fait. Avez-vous d'autres points aussi dans votre programme?
Au niveau de l'appui, par exemple, aux étudiants.
Ça, c'est parce que j'avais aussi même une question pour vous intéresser aussi à la communauté étudiante. Ça veut dire, à l'autre côté, on parle de les gains de rue, blabla, un petit peu négatif. Là, le côté positif, qu'est-ce que justement vous avez pour ces étudiants-là?
Mais écoutez, non seulement de l'emploi, parce que c'est à
vous
peu près...
Vous parlez de l'employabilité?
De l'employabilité, tout à fait. Donc, durant l'été, que ce soit les jeunes du cégep ou des universités peuvent appliquer dans un cycle pour des emplois dans différents domaines. Que ce soit, et ça, c'est des emplois subventionnés. Et ça revient à peu près à 310 000 dollars. Et ça, c'est quoi? C'est fondamentalement pour les festivals, les camps de jour. pour les jeunes. Donc, ils vont non seulement c'est des emplois pour les jeunes,
oui.
mais c'est en plus de ça des camps d'été pour les plus petits.
Mais c'est bien, vous les préoccupez c'est... un petit peu en moins.
Tout à fait. Donc, vous voyez, ça touche plusieurs domaines.
Tout à fait.
Aussi, une de mes préoccupations, parce que c'est le député qui établit ses priorités face à ce programme-là.
Tout à fait.
Et moi, une de mes préoccupations, c'est les enfants handicapés. Les autistes, les personnes sourdes, les enfants muets, donc sourds, muets et à déficient intellectuel, toutes formes d'handicap.
Quand vous parlez de cette catégorie, est-il y a un nombre que vous nous citez aujourd'hui?
Je ne peux pas vous donner un nom, mais on a des organismes dans le comté qui travaillent avec ces enfants-là.
Okay. Et c'est-à-dire ils sont, c'est-à-dire la présence, elle est importante.
Oui, oui. oui et pour moi, c'est fondamental que ces enfants-là puissent aller dans des camps d'été.
Tout à fait,
comme
ouais.
tous les autres enfants.
Tout à fait, ouais.
Alors j'ai
donné la chance à ces gens.
Voilà, donc et ça veut dire quoi? Ça veut dire des éducateurs en plus
ouais.
dans un camp d'été. Donc je subventionne un peu ça de permettre à des jeunes
ouais.
d'être là pour aider des enfants handicapés pour avoir des camps d'été.
Oui.
Donc, pour pouvoir participer à des camps d'été avec tous les autres enfants.
Oui.
Donc, comme tous les autres enfants qui n'ont pas d'handicap. Ça, c'est fondamental. Aussi, ce que je travaille aussi beaucoup avec les jeunes pour, non seulement au niveau du nettoyage des graffitis. Ça, c'est un autre...
C'est un cycle toujours. Hein.
Toujours un cycle. Oui. Donc, nettoyage des graffitis, par exemple, la revitalisation de la berge.
Ça veut dire que vous n'avez pas réussi... à chasser un petit peu les gangs de rue de votre côté.
Ah, ben écoutez, au niveau des gangs de rue,
oui. ils sont Annecy, là aussi à côté de vous. Là.
Annecy est un comté vraiment
oui.
plus sécuritaire, je vous dirais, que beaucoup d'autres comtés.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Montréal-Nord et tout.
Bon.
Oui, oui.
Par contre, nous avons eu notre propre gang de rue, qui s'appelait le E-Town, d'ailleurs, Annecy Town, et nous les avons démantelés.
Ah,
ça a pris 2 ans, mais on a travaillé pour les démanteler. Mais moi, ce que je ne voulais pas, c'est qu'on les démantèle et que le vide qu'ils vont créer va se remplir.
Tout à fait. Oui.
Par quelque chose d'autre qu'on connaît pas ou de pire
aussi,
ou de même, vous voyez? Alors,
vrai.
Ce qu'on a fait, on a pris 2 ans avant de les démanteler.
Ouais.
Alors, pourquoi on a pris 2 ans? C'est parce qu'on a fait en sorte que la communauté de ce quartier-là, que je nommerai pas pour pas les stigmatiser,
participe
à la réappropriation territoriale. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Ils ont réussi finalement.
Et on a réussi, on les a démantelés. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, oui, Annecy est un quartier sécuritaire
ouais.
par rapport à d'autres. Quand on se compare, on se console toujours.
Ouais.
Mais jamais jouer à l'autruche.
Et comme vous disiez,
jamais mettre sa tête dans le sable
ouais.
parce qu'il faut toujours faire de la prévention pour pas que ce genre de groupe-là s'implante.
Mais
là, ça veut dire quoi? Annecy, oui, on peut continuer à faire de la prévention puis à lutter pour l'implantation des gangs de rue.
Ouais.
Mais le crime organisé, faut pas l'oublier.
Ouais, ouais.
C'est quand on a des bars de danseuses et puis qu'on a des bars et puis qu'on a des salons de massage érotique, puis il y en a plusieurs qui ont été démantelés.
Ouais.
Puis comme vous le savez, à mon propre dans la propre bâtisse de mon où mon bureau est, j'ai démantelé le avec la police, on a fait la plus grosse collecte de marijuana, de plantation de marijuana.
Oui,
on les a poignés là juste au-dessus
Morani,
de moi. Là.
Quand vous parlez de démanteler, ça veut dire vous avez envoyé ces gens-là à la prison ou vous avez trouvé une autre issue pour...
Il y a du monde qui ont été arrêtés.
Parce que c'est plus facile, hein, envoyer quelqu'un en prison, c'est la chose la plus facile encore.
Il y a du monde...
Mais ce qui est plus responsable, c'est de trouver...
des alternatives.
Voilà,
tout à fait.
Ouais.
Mais il y en a qui ont été arrêtés
ouais.
parce que c'était
des chefs...
C'est des gens qui ont commis des actes criminels.
Ouais, voilà.
Tu peux rien faire.
Ouais, ouais.
Quand tu fais le trafic de drogue, prostitution...
Ouais.
Il y a eu des fusillades, là. Il y a eu des fusillades à cette place-là. Donc ces gens-là ont été arrêtés parce qu'ils ont commis des crimes.
Oui.
Puis il y en a d'autres qu'on a récupérés justement pour faire de la prévention, pour avec un centre de jeunes. Je vais pas le nommer là, un centre de jeunes, etc.
Moi je parle toujours des jeunes. Vous êtes aussi maire de.
Oui, monsieur. Une question qui m'intéresse.
Oui.
Comment vous expliquez que un policier qui arrête un gars de gagne de rue mais haute classe là dans une voiture louée avec des faux papiers et que le gars fasse 2 jours de prison seulement. Moi, je veux juste qu'on m'explique ça. Est-ce que les faux papiers, c'est pas condamnable par le fédéral?
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
2 jours de prison seulement?
Ah, je ne vois pas de quel cas vous parlez.
Je ne vois pas de quel cas. Je vais vous dire autre chose. Le gars va démolir une porte de son ex. Il fait peur aux enfants. Il met la pagaille. Il menace. Et on l'envoie juste une après-midi en prison. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce que la police fait.
Vous voyez, d'un côté, M. Zeitouni dit que, oh mon Dieu, on arrête trop de monde, puis qu'on les met en prison, puis de l'autre, vous dites que quelques...
Moi, je dis une chose, c'est que la police ne fait pas son travail. Ah. La police doit arrêter de mettre des billets. Les billets sont réservés aux gens qui travaillent pour la municipalité, là, avec leur petite bagnole, là, puis qui vont mettre l'étiquette. Mais la police devrait mettre de l'ordre. La drogue a pris les rues complètes de Montréal. Ouais. Partout où vous avez des machines poker, partout où vous avez des casinos, partout où vous avez des bars, il y a des vendeurs de drogue.
Ouais, non, je vous comprends, mais je vous dirais, nous, dans NSIC, on est quand même choyés.
Voilà.
Et moi, je les vois de près parce que je participe à toutes les tables de concertation et puis je suis même avec eux à la table de... On a une table de sécurité publique et on a une table de consultation, si vous voulez, à la table de sécurité publique dont
vous
je fais partie.
Vous suivez le dossier un petit peu, là.
Oui, donc ils font quand même leur travail. Maintenant, je peux pas vous parler de tous les autres comtés. Peut-être qu'il y en a qui le font moins que d'autres, comme partout ailleurs, hein, dans toute institution,
mais
il y a des points
toujours,
faibles.
Madame
on a
Rani,
beaucoup de ripoux.
Mais ça reste toujours qu'il y a quand même de l'abus de pouvoir de côté policier. Madame Morani, vous insistez beaucoup sur la santé, l'environnement, la sécurité de la population, de votre arrondissement, et j'imagine pour le reste du Québec.
Ouais.
Quelle est la part que vous réservez à la défense de la démocratie? Mm-hmm. Un moment fondamental, même on peut dire un monument fondamental en détresse. Et je vous renvoie à titre d'exemple au sommet de G20. Le monde entier était témoin de cette violation de droits. Comment vous l'avez pris personnellement? Est-ce que vous avez agi vis-à-vis de tout ça?
Mais moi, je vous dirais, pour moi, lorsque j'ai commencé à entendre des témoignages, parce que j'ai rencontré du monde,
ça je sais aussi,
pas mal, beaucoup de personnes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes.
Sont venus vous voir.
Tout à fait, tout à fait.
Des jeunes québécois qui sont venus vous voir.
Tout à fait. Beaucoup de jeunes qui ont manifesté là-bas et qui ont été arrêtés.
C'est ça ce qui m'intéresse. Moi, comment vous, comme député, comment vous avez agi? Quel sentiment vous avez eu ce soir? Nous sommes au Canada, nous sommes pas en Afghanistan.
Mais c'est ça. Donc le sentiment. Parlons du sentiment déjà. Tout d'abord, je ne pouvais pas croire que nous étions au Canada.
Voilà.
Quand on m'a raconté ce qu'on m'a raconté et que finalement, ce n'était pas des bobards, là. Les faits étaient justifiés parce qu'il y a eu après des rapports d'organismes la société, l'association des libertés civiles. Il y a eu plusieurs associations.
Et le résultat aussi, le blanchissement.
Oui, le blanchissement, même pas, l'acquittement.
L'acquittement définitif,
de toutes les personnes qui ont eu.
Preuve,
tout à fait, tout à fait. Donc, d'une part, je n'arrivais pas à y croire qu'on était au Canada, d'une part. Deuxièmement, j'étais extrêmement révoltée par rapport à tout ce que j'entendais, parce qu'il y avait, non seulement il y avait des propos anti-francophones,
tout à fait,
des propos anti-québécois, des propos anti-femmes, des propos homophobes, des propos racistes, et des comportements que je ne pouvais pas croire, exemple... dans le centre de détention provisoire, des gens qui ont été privés d'avocats pendant plusieurs heures, au-delà des heures permises, qui ont été mis dans le froid, dans le chaud, dans le froid, dans la lumière. Écoutez, quand on regardait ça, on dit, mon Dieu, et l'un des témoignages que j'ai trouvé assez cocasse, c'était cocasse parce que quand la personne me racontait ça, elle riait elle-même, elle me dit, j'ai rencontré un vrai criminel. Dans une des cases, un vrai, lui qui avait vraiment commis un acte criminel, puis il disait, hey, mon Dieu, je veux pas rester avec vous autres, je vais dégager d'ici, on est mieux en prison.
Mais madame, je peux vous dire aussi encore mieux. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a participé à un handicapé sur une chaise roulante et qui l'ont mis l'imélote.
Ça n'a pas de bon sens.
Là, au pied, là, il bouge pas. C'est des légumes.
C'est un bon imélote. Donc, ce qu'on a fait concrètement, il faut que je vous dise ce que j'ai fait dans ce dossier-là parce que je suis pas parole.
À part le sentiment.
Bon,
maintenant, on passe à l'action.
Tout à fait. Donc, à titre de porte-parole à la sécurité publique, j'ai travaillé pour qu'on ait un comité qui se penche là-dessus. Dès l'été. Donc, vous savez, l'été, le Parlement ne siège pas. Alors nous avons convoqué le comité avec une motion pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, comme vous pouvez vous y attendre, il y a eu une espèce de court-circuitage des conservateurs et on n'en a pas discuté durant l'été. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à la rentrée, j'ai demandé qu'il y ait au moins 5 réunions qui soient portées juste sur ça, puis qu'il y ait un rapport qui soit déposé. Alors, c'est ce qu'on a fait. Il y a eu 5 réunions. Et laissez-moi vous dire que la seule personne, qui a fait venir des manifestants, c'est moi.
Voilà.
Tous les autres, les libéraux n'ont parlé que des coups. Les coups. Une fois ou deux, ils ont parlé des droits de la personne parce que c'était tellement abominable qu'ils se sentaient mal à l'aise. Vous vous rendez compte?
Ouais, tout à fait.
Et la seule personne qui a fait venir, c'est le Bloc québécois qui a fait venir des manifestants, qui a eu le courage de faire venir des manifestants. Ça, c'est la réalité. Ouais. Et par après, on a fait un rapport. Ce rapport, toutes les recommandations du Bloc québécois ont été retenues. Toutes, sans exception. Et nous avons été ceux qui ont ramené les recommandations les plus fortes.
Oui.
Les plus fortes. Avec une enquête publique et même les détails de l'enquête publique, de tenir compte du rapport de l'Ombudsman de l'Ontario, de l'Ontario. Tout ça là, c'est nous qui l'avons fait. Et il y a une seule de nos recommandations qui n'ont pas été retenues. Et comme tenu que c'était à huis clos, je n'ai pas le droit de vous dire quel est le parti qui a fait que ça a dérapé.
Mais
je peux vous dire c'est quoi cette recommandation. Oui. C'était une recommandation où on demandait au chef Blair de s'excuser, d'être venu au comité et d'avoir encore porté le discrédit sur les manifestants qui n'avaient plus aucune charge. Et cette recommandation-là n'a pas été retenue à cause que, je ne pourrais pas vous dire qui, mais il y a eu un parti qui a décidé de ne pas appuyer ça, qui a fait en sorte que
écoutez, il faut le dire, madame, il faut le dénoncer.
Non, je suis tenue au huis clos, je respecte le huis clos, mais par contre, la recommandation est dans le rapport, et elle est portée par le Bloc québécois.
Madame,
j'ai une série de questions que j'aimerais bien céder la parole à Roland.
Chose que j'arrive pas à admettre dans ces élections, on a des NPD qui parlent pas français à Verdun, on a des libéraux qui savent pas lire et ils prétendent que son travail favori, c'est de lire. Il faudrait qu'il lise beaucoup avec son enfant. Il va apprendre à lire. On a des gens, en définitive, qui sont de bonne foi, mais on a aussi des... Moi, j'appelle ça Reform Party. Vous appelez ça conservateur. Madame, je regrette infiniment. C'est du Reform Party. Et ça me rappelle le parti éclairien. Ce sont des éclairiens. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils le rayent, ils l'éliminent et ils coupent. Et c'est ce qu'ils font avec les droits d'auteur des artistes, c'est ce qu'ils essayent de faire avec tous nos droits de notre culture et ainsi de suite au Québec. Ce sont des dictateurs du Reform Party. Et ça, madame...
Quelle est votre question, mon cher monsieur?
Moi, ce que je veux déclarer, c'est qu'on les ménage trop, ces gens-là. Le NPD, il met des gens au dernier moment, alors que ces gens-là n'existaient pas, une semaine après que l'élection ait commencé, ils arrivent. On a un libéral qui fait du trafic de montres aux douanes et qui est arrêté, qui est obligé de payer 5 000 $ d'amende et on le présente dans Verdun. On nous prend pour des valises. Malheureusement, on n'a pas tous une poignée dans le dos. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre comté, madame. Mais moi, je vais vous dire une chose.
Ah, c'est beaucoup.
C'est la plus grande honte que j'ai de voir ce qu'il se passe à Verdun et des gens qui sont séduits par ça, mais ils ne savent pas où ils vont. Ils vont 15 ans en arrière.
Ouais.
C'est malheureux.
Je vais juste répondre par rapport au NPD.
Répliquer
un petit peu. Concernant le NPD, par contre, dans mon comté, je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui le blog de Jean-François Lisée où il disait très clairement que Amir Kadir appuie Maria Mourani dans NSIC et demande aux électeurs et aussi appuie Viviane Barbeau dans Papineau et demande aux électeurs de ne pas voter pour de ne pas diviser le vote progressiste et parce que ça va laisser passer des libéraux compte tenu que les libéraux ont beaucoup appuyé dans plusieurs décisions les conservateurs. Moi ce que je trouve dommage c'est j'aurais bien apprécié que Amir appuie tous les bloquistes c'est sûr que je le remercie beaucoup de son appui parce qu'il sait que je suis une femme très progressiste et puis que j'ai pas ma langue dans la poche, j'ai toujours défendu le droit de la personne, toujours été aux barricades comme on dit.
Vous êtes là pour ça aussi.
Donc tout à fait, je n'ai fait quant à moi que mon devoir à vrai dire. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir cet appui global pour le Bloc québécois parce que vous savez, moi, là, je le vis depuis 5 ans. Je suis à Ottawa et je le vis quotidiennement. Je vois tous mes collègues se lever tous les jours, parler avec les fédéralistes qui sont présents à Ottawa, parce que c'est tous des fédéralistes. C'est tous. On est les seuls qui défendons les intérêts du Québec. Ça peut paraître un leitmotiv, ce que je dis, défendre les intérêts du Québec. Mais dans mon quotidien, je l'ai vu. Quand il y a eu des projets de loi qui sont amenés, qui allaient à l'encontre des intérêts du Québec, moi, j'ai pas vu le NPD se lever. J'ai pas vu les libéraux se lever. J'ai vu juste les bloqués se lever de manière minoritaire. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si nous sommes encore plus minoritaires que nous ne l'étions, mais la voix du Québec, elle sera pas là. C'est ça la réalité. Ouais. Et le plus triste dans tout ça, moi, voyez, on me posait la question, est-ce que l'effet NPD, vous êtes inquiète? Je dis, je suis pas inquiète, je suis triste.
Tout à fait.
Je suis triste
tout
parce que maintenant, nous, les bloquistes, nous, les candidats du bloc, ouais, on a besoin de la population, on a besoin
c'est
de vous.
C'est le moment qu'on a besoin.
On a besoin de vous. On a toujours été là pour vous.
Ouais.
Constamment, on a été là pour vous, pour porter votre voix, pour se battre pour vous. Au-delà de tout, on n'avait qu'un seul maître, c'est vous. Oui. Vous êtes nos maîtres. Oui. On est à votre service. Et là, c'est nous qui avons besoin de vous pour qu'on soit fort pour vous là-bas. Mais si nous sommes faibles là-bas, ben, veux pas, le Québec sera faible. Et je vous donne un exemple. Le projet de loi pour le poids politique du Québec, ils veulent augmenter le nombre de députés au Canada. Ils ne veulent pas en mettre au Québec. Pourquoi, à votre avis? Pour diminuer le nombre de députés québécois par rapport au nombre de députés canadiens. Mais ils sont tous d'accord avec ça. Tous d'accord. Vous voyez?
J'aimerais bien, Madame Morani, peut-être en deux mots.
Oui.
Vous évoquez parfois la trajectoire du gain de riz au terrorisme, pardon.
Oui.
D'ailleurs, c'est le projet d'un nouveau livre sur lequel vous travaillez, peut-être, si je ne me trompe pas. Or, vous savez très bien que vous n'êtes pas très loin de l'exagération du conservateur, notamment à la charge des terroristes sur le sol canadien et partout dans le monde. Une vraie tempête dans un petit verre, même peut-être un peu troué. Pensez-vous réellement que le Canada est menacé dans sa sécurité? En quelques mots, rapidement.
Mon Dieu, une grande question. Écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la démagogie de voir des terroristes partout et se mettre à discriminer tout le monde, d'une part.
Oui.
D'autre part, faut pas aussi jouer les innocents et croire que, bon, on n'en a pas de problème. Je pense que c'est dans le dosage de tout. Il faut avoir un certain équilibre dans les choses. Par contre, j'aimerais soulever que, bon, comme vous le savez, le fameux mandat de sécurité qui permet d'arrêter quelqu'un de manière préventive, sans aucune accusation, mais soi-disant qu'on a de l'information, ça a été inacceptable pour nous autres. Le Bloc québécois a voté contre ça. Parce qu'on considère que le code criminel, tel qu'il est actuellement, si vraiment vous avez des preuves contre quelqu'un qu'il est un terroriste, arrêtez-le. Portez-le en justice, condamnez-le. Mais ne vous mettez pas à arrêter du monde parce que vous pensez que peut-être un jour, on ne sait jamais, il va faire quelque chose. Donc, vous voyez, il faut faire cet équilibre-là.
Oui.
Et le terrorisme, si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre la pauvreté, mais surtout l'injustice.
Voilà, donc malheureusement, c'est tout ce qui nous reste de notre temps d'antenne. Au nom de tous les membres du mouvement Action Justice, je remercie particulièrement Mme Maria Morani, candidate à l'élection fédérale dans la circonscription antisique, d'avoir accepté de partager avec nous de son temps. Cette femme infatigable, déterminée, consciente de ce qu'il attend après le 2 mai. Je remercie aussi mon collègue Roland Cazès pour sa participation aujourd'hui. Merci Nadia Mirouane et Alexandre, nos nouveaux techniciens de son, et finalement, sans oublier de remercier Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cette tribune pour la parole existe. À moi, je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, à vendredi prochain à la même heure.
Cadeau d'été.
Hey, j'ai gagné un vélo!
Pas vrai, maintenant? Mais non, t'as gagné un barbecue!
Non, un vélo!
Ou un barbecue, ou peut-être même une tablette électronique.
Non, un vélo, c'est mon billet, c'est moi qui choisis.
Cadeau d'été de Loto-Québec vous offre une nouvelle façon de gagner. Maintenant, vous pouvez choisir le cadeau que vous remportez. Un cadeau parmi trois choix dans la catégorie gagnante, dont des tablettes électroniques,
barbecue,
vélo.
Cadeau d'été, à vous de choisir ce qui vous fait vraiment plaisir.
Un vélo!
La loterie est pour adultes seulement.
L'émission La Réflexion, une émission traitant des sujets d'actualité, nationale, internationale et régionale. tous les mardis soirs de 23h30 à minuit 30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM avec votre fidèle animateur Audney Estimé.
Le Masseur des années 30, un tournoi de golf hors du commun au bénéfice de la Fondation Fish Corporation. Habillez-vous pour les sans-abri. Le Masseur des années 30 se tiendra au prestigieux Elmridge Country Club le 16 juin 2011. Invité d'honneur, Monsieur Rémi Bouchard. Un appel est lancé aux entreprises. Votre partenariat est recherché. Aidez-nous à fournir un toit et un lit aux personnes dans le besoin. Pour information sur ce tournoi d'époque, 514-670-7004 670-7004 ou www.fishcorporation.org.
Vous avez une soif inaltérable de savoir ? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.